sortir, là, on l'a bouclé. Enfin, pardon, je dis on l'a bouclé. Vous l'avez bouclé en même temps que je bouclais le livre journal, puisque nous avons un imprimeur en commun.
Nous sommes retrouvés au même atelier de composition.
Et j'ai jeté un œil sur la une, qui elle est d'une actualité un petit peu à rallonge, puisque vous consacrez la une au 50e anniversaire de la disparition du maréchal Pétain.
Du maréchal Pétain, en effet, qui est mort le 23 juillet 1951. Ça fera donc 50 ans, le 23 juillet 2001. Et nous avons d'abord une revue des livres par Pierre Deplace, qui a recensé quelques livres, pas tous bien entendu, et le sous-titre de sa rubrique est « Le retour à la vérité », qui rétablissent un petit peu la vérité autour de du rôle et du maréchal Pétain, et un excellent article du général Le Groignec, qui est président de la DMP, qui est l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, qui est excellent. Et en couverture, nous avons tenu à indiquer très fort et très en vue une phrase excellente du général Le Groignec à propos du maréchal Pétain: devoir de mémoire, devoir de vérité.
Mais comment, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui encore comme information nouvelle
précisément
sur le maréchal
Alors,
Pétain?
Serge, je vais vous lire une phrase que nous avons mise c'est pas notre habitude, mais justement en couverture, car elle mérite d'être lue tout de suite. C'est une phrase, bien entendu, du maréchal Pétain qui disait: tant que je serai vivant, je n'accepterai jamais que cette ignominie qu'est l'étoile jaune soit appliquée en zone sud. Car il reste encore à faire la vérité. Ça nous paraît à nous presque inutile aujourd'hui de faire la vérité. Mais pourtant,
c'est fatigant en tout cas
pour les jeunes qui pensent que le maréchal Pétain avait obligatoirement demandé que les Juifs en zone sud portent l'étoile jaune. Non seulement en zone sud, mais ça je l'ai entendu moi de la part de certains rapatriés juifs d'Afrique du Nord qui prétendaient avoir porté l'étoile jaune en Algérie. Ce qui est totalement faux. Donc il y a encore beaucoup de vérités à rétablir. Le général Le Groignec n'écrit pas et ne parle pas en l'air. Il y a beaucoup, beaucoup de références. Il fait intervenir des gens dans ses références comme Annie Criégel, etc. Et il a pris un angle seulement. Son article n'est pas une hagiographie de toute la vie du maréchal Pétain. Mais il a voulu insister, rétablir la vérité sur ce point de des Juifs, de l'étoile jaune et aussi de...
Je pense que c'est pas...
Des Juifs.
Excusez-moi,
d'ailleurs,
mais...
même numéro, et je ne serai pas trop longue parce qu'il ne faut pas parler que de mon dévis, nous donnons cette petite information que tout le monde a dû voir à propos de Mgr Gabriel Piguet. Le 22 juin a eu lieu dans la cathédrale de Clermont l'hommage du diocèse à Mgr Gabriel Piguet à l'occasion de la remise de la médaille des Justes parmi les nations, qui lui a été remise à titre posthume. Or, cette médaille des Justes est décernée par le mémorial de Yad Vashem à celles et à ceux qui ont sauvé des Juifs sous l'occupation au péril de leur vie. Il n'est pas inutile d'ajouter que Mgr Piguet était un fervent maréchaliste. Je crois que c'est important. Donc c'est une page seulement, mais une page d'histoire où la vérité est rétablie. Je crois que c'est très important.
Emmanuel voulait dire quelque chose.
Oui, je voulais dire que c'était pas seulement pour les jeunes qu'il est important de rappeler qu'effectivement il n'y a pas eu de port d'étoile jaune en zone libre, et même quand ça a été occupé à partir de 42 par les Allemands, puisque Jean Montaldo, on revient à lui, utilisait cette formule dans il avait fait une grande chronique dans le Figaro en accusant Miller, qui l'avait attaqué à la télévision,
oui,
de l'avoir marqué du sceau de l'étoile jaune comme le faisait l'État français du maréchal Pétain avec les Juifs.
Donc
faut dire, il est rapatrié d'Algérie. Donc,
oui. En fait, Claude, vous avez tout à fait raison d'insister sur ça, et ça nous arrive aussi de le faire, parce qu'en réalité, quand vous dites qu'il y a encore beaucoup de vérités à rétablir, moi je dirais que le nombre de vérités à rétablir augmente. augmente parce que
très juste,
si ceux d'entre nous qui se souviennent de l'état d'esprit en France en 45, en 50, en 60, en 70, en 80, constatent que l'on fabrique et que l'on, comment dirais-je, que l'on bétonne de plus en plus une histoire complètement fausse.
Oui,
et que
Jean,
cette histoire histoire complètement fausse appuie à la fois sur les deux énormes piliers du mensonge que sont la télévision et l'éducation nationale conjuguée, n'est-ce pas, impose une histoire et de plus en plus fausse et de plus en plus difficile à contredire, à contrecarrer, sauf que effectivement il y a aussi l'indifférence qui vient souvent dans la jeunesse à l'égard de cette période qui commence à devenir lointaine.
Oui,
mais je crois, Claude, que toutes les légendes noires que connaît l'histoire ne sont jamais nées sur le moment, ou en tout cas elles n'ont jamais pris leur essor et ne se sont jamais imposées sur le moment. Elles s'imposent quand il y a quand la majorité des témoins a
à
disparu.
Mesure de besoin.
Or là il y a maintenant, nous arrivons à une époque où il y aura ferons l'article sur le maréchal dans notre prochain numéro en date du 21 juillet. Mais justement, ce qui est frappant, c'est que le mensonge s'installe d'autant plus qu'il reste de moins en moins de témoins s'exprimant.
Oui, c'est juste. Et la vérité a tellement été transformée, défigurée, que des personnes, tout le monde n'est pas historien ou ne lit pas attentivement nos journaux, c'est un tort, mais c'est une réalité. Il y a pas mal de personnes en France qui peuvent penser a priori que nous mentons. Tout simplement pour défendre certaines idées réactionnaires et certains principes.
Oui, mais enfin, que nous mentons quand vous donnez
parce que la vérité est très loin, on l'a tellement camouflée.
Quand vous donnez la parole au général Le Grognec, vous êtes quand même assez protégé de ce côté-là, parce que c'est pas quelqu'un qui est suspect d'avoir manifesté la moindre sympathie pour la collaboration, pour
le
révisionnisme et autres abominations devant la face du Seigneur.
Bien sûr.
Donc c'est lui qui a pris en charge, justement. Là, on est en face d'un cas qui est absolument typique d'un officier français au-dessus de tout soupçon, je dirais, et qui décide qu'il y en a assez du mensonge et de la fabrication, et qui dit maintenant, moi, ce qui me reste à faire dans...
Vous n'entendez pas très bien.
Ce qui me reste à faire dans la vie, dit probablement le général Le Grognec, c'est de terminer comme j'ai commencé dans l'honneur, en prenant la défense du plus injustement diffamé.
Diffamé, bien sûr.
Je crois que c'est ça.
Oui.
Et la pratique du terrorisme.
Trotsky,
Jean, il y a avec le trotskisme un autre élément maintenant, veux dire, ou en tout cas après la guerre, c'est que le trotskisme bénéficie auprès de l'opinion d'une supériorité sur le communisme, parce qu'il y a l'élément, dans la mesure où Trotsky est assassiné, il y a un élément romantique et qui n'est pas souillé par le stalinisme. Il n'y a pas l'hypothèque staliniste, alors que Trotsky est évidemment, dans les conditions objectives de Staline, Trotsky aurait très exactement fait ce qu'a
mais
fait
je vais, Staline. Non, il a été éliminé parce qu'il était plus...
Il était
encore plus fusilleur. Enfin, c'est fondateur de l'armée rouge. Et tout le monde, les trotskistes n'ont jamais renié, n'ont jamais fait amende honorable, se sont jamais excusés du rôle du Trotsky, parce que Trotsky a quand même participé à la révolution bolchevique et il a été éliminé quand même assez tardivement dans les années 20.
Donc ils ont un rôle fondamental.
Ils n'ont jamais renié aucune idée à la différence
même
quand même
dans la famille de l'Ukraine d'ailleurs, où c'est un théoricien de l'arme de la famille.
C'est l'histoire du stalinisme, n'est-ce pas, comme si cet idéal magnifique du communisme avait été malheureusement dévoyé par Staline.
Ah, non, mais Voilà. Or, pour revenir au
tout ça, le communisme,
tout ça est une imposture formidable.
Le communisme léniniste a donné lieu à deux branches, je sais pas aujourd'hui, la branche trotskiste et quelques autres. La principale, les branches trotskistes et la branche stalinienne.
On voit, tout ça est une imposture formidable. Ça tendrait à supposer qu'il y a un communisme léniniste, un marxisme-léninisme qui est plus acceptable que les autres. Oui. Or, en réalité, on voit bien que le marxisme-léninisme, comme vous le dites, qu'il que ce soit
dans son
incarnation maoïste, dans son incarnation trotskiste, dans son incarnation stalinienne, enfin Trotsky justement on sait pas, mais enfin si on sait parce qu'on voit bien ce qu'ils ont fait par la suite.
Mais Guevara, Mao, voilà, bon, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une autre question, alors qui est vraiment purement d'actualité, c'est la question de la révélation, parce que la prétendue révélation du passé trotskiste, tout le monde le savait depuis longtemps. Pourquoi d'un seul coup ceux dont Emmanuel nous disait tout à l'heure qu'ils avaient été les profs de trotskisme de Jospin, pourquoi ont-ils jugé bon, d'un seul coup, à un an des présidentielles, de faire dans Le Monde et dans d'autres journaux des révélations et donc d'officialiser ce que tout le monde savait, ce que toute la presse savait? C'est un peu l'histoire de la bâtarde de Mitterrand. Tout le monde savait qu'il y avait une bâtarde.
Oui, mais il y a une raison superficielle.
Pourquoi? Alors, l'explication que j'ai, c'est la suivante. C'est que quand des sapeurs veulent s'emparer d'une place forte, ils creusent des tunnels. Et une fois qu'ils sont au milieu de la place forte et qu'ils ont occupé la place forte et qu'ils ont pris le pouvoir, ils mettent des étendards sur la place forte. Et Jospin et tous les trotskistes, les journalistes trotskistes de la télévision, de la presse, les ministres trotskistes, les fonctionnaires trotskistes, qui pourrissent, qui ont littéralement sapé la société française.
Le syndicat de la magistrature.
Les syndicats ouvriers, les syndicats de journalistes. Donc tous ces gens-là
tous les directeurs de cabinet, d'innombrables directeurs de cabinet,
toutes les figures de la presse, tous ces gens sont imprégnés des idéaux trotskistes, d'espionnage, d'infiltration et de terrorisme. Eh bien ces gens-là ont sapé la société française, ils ont fait des sapes, ils sont rentrés au cœur de la société française, et maintenant ils sont tellement au cœur qu'ils tiennent le gouvernement, le pouvoir, et ils se manifestent, et ils disent voilà, on est là maintenant, donc vous pouvez agir librement. Et comme par hasard, à la suite de cette proclamation de prise du pouvoir, on voit se multiplier les initiatives que vous soulignez, Jean, qui sont des initiatives de destruction du tissu social, c'est-à-dire l'avortement hystérique, pratiquement l'obligation d'avorter pour les mères soupçonnées de porter des enfants handicapés. Je reviens là-dessus parce que c'est évident que c'est à ça qu'on va, et dans l'émission de Jean Ferry il était question de ça l'autre jour. On a très très bien compris que l'invité qu'il recevait, qui appartenait, je crois, qui était quelque chose dans le comité d'éthique ou qui, en tout cas, avait participé aux travaux préparatoires, il a en tout cas parfaitement compris qu'à terme, c'est ça qui va se passer, c'est le refus de toute solidarité sociale pour les handicapés
dans le mensonge. Regardez la loi Aubry, dont tout le monde a dit et tout le monde a pensé que c'était une loi, d'après son titre, qui prolongeait le délai d'avortement légal. C'est vrai qu'elle fait ça.
Oui, mais c'est pas vrai, c'est bien plus grave que ça.
Ce qu'elle fait de très grave, c'est qu'elle a mis dans la loi le droit à l'avortement.
Absolument. Alors que
le droit à l'avortement, ce qui détruit complètement le droit français. La loi Guigou sur la justice dont on parlait tout à l'heure, et d'ailleurs tout que Chirac y a trempé les mains, mais cette loi fortement jospinienne et trotskiste sur la présomption d'innocence n'a rien à y voir et n'en a reçu aucun secours. Mais la paralysie complète de la justice et de la police dans les plus simples opérations de répression.
Non, mais on est en plus là, on est dans le délire. Si on prend
finalement ce qu'on dit un peu caricaturalement mais très vrai, la destruction de l'État bourgeois qui était le projet communiste et le projet spécialement trotskiste.
En ce qui concerne la loi sur la présomption qu'on a appelée faussement, parce que en plus il y a un trucage typiquement trotskiste qui est de donner des noms qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Mmh. Alors on dit la loi de prolongation du délai d'avortement, c'est pas vrai, c'est pas ça. On dit la loi présomption d'innocence, ça n'a rien à voir avec ça, c'est tout à fait subalterne.
Le
pacte civil de solidarité, oui, qui devait s'appeler, je le rappelle, le contrat d'union laïque. Les initiales ne convenant pas, on a décidé de changer au dernier moment. Mais à chaque fois, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on nous, on nous présente un nom qui voile la vérité, et comme nos concitoyens sont quand même majoritairement abrutis par la télévision, par des journaux menteurs, et par le matraquage des radios et du politiquement correct, ils avalent tout ça tout rond, et ils ne pensent même plus réfléchir. Et le résultat, c'est qu'on voit, par exemple, on arrive à cette situation qui est totalement démente, où dans l'affaire Dils, ce type qui a tué deux enfants, et on peut dire Dils a assassiné deux enfants de sang-froid, puisqu'il a été condamné en première instance et que la Cour de cassation a refusé de casser la condamnation. Eh bien, on en est arrivé à cette situation que maintenant il est fondé à faire appel. Or, s'il fait appel, il faudrait le remettre en liberté. Autrement dit, voilà un homme qui a été condamné deux fois par un tribunal populaire et par un tribunal professionnel pour un crime, et sous prétexte qu'il fait appel, au nom de la présomption d'innocence, on lui dit, bah, monsieur, comme vous êtes en appel, on peut pas vous garder en prison, on va vous remettre dehors. Enfin, oui, c'est quand même de la folie furieuse. Mais... alors, on peut pas penser que les gens qui font ça sont simplement des malfaits, enfin, sont simplement des imbéciles. C'est-à-dire, Jospin, c'est tout sauf un imbécile. Le ministre de la Justice, c'est tout sauf un imbécile. Ces gens-là sont pas des crétins, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des opérateurs de destruction des structures, de déstructuration de la société.
De ce qui reste encore.
Vous avez parlé de l'affaire Dils. Moi, ça m'a frappé, l'affaire Dils, où on le fait, on veut encore le faire repasser devant un tribunal. Mais c'est très exactement le processus pour l'Irlande. L'Irlande a dit non,
voilà, c'est
au
ça,
référendum. Ben, on va lui faire un nouveau référendum pour qu'elle dise oui. Et jusqu'à, comme on l'a fait pour les Danois, on les a fait voter trois fois.
Mais de même, alors pour... Je change complètement
donc,
de sujet.
Donc, si vous voulez, tout est, c'est, oui, c'est toute une structure de la société. Quand, par hasard, on rate son coup, on recommence.
Mais ce n'est pas seulement français. La preuve, ce que
et
vous venez
de dire.
Et
ça n'est pas seulement français.
Et il y a un autre
mais
exemple.
Mais Serge, le trotskisme, la vérole trotskiste, ça a frappé la Grande-Bretagne avant nous. Les gouvernements d'Harold Wilson étaient totalement truffés de trotskistes.
Oui, oui, bah, et celui de Blair aussi, d'ailleurs. Ils sont là, ils sont partout.
Avant Thatcher, toute l'opposition, enfin, était des Hugues, comment s'appelait-il, l'ancien leader avant Blair, que Blair a battu pour l'investiture du parti travailliste.
Je ne me rappelle pas du tout son nom.
Bon, enfin, c'était...
Comme nous dit un auditeur, ne faites pas trop de nombrilistes, parlez-nous aussi des pays étrangers.
Parce qu'il s'est retrouvé quand même commissaire européen.
Non, mais c'est la même la même affaire en Allemagne.
Exactement.
Mais là, par exemple, vous voyez, les journaux, là, à l'occasion de petite révélation, enfin, sur Jospin, quand même une confirmation. Je pense que, Serge, vous vous rendez pas compte, le niveau informatif des gens est très très faible. Donc, en fait, quand par exemple vous nous parliez, c'est une affaire qu'on avait un peu vécue ensemble, l'histoire de Mazarine, hein, en fait, il y avait qu'un minute, on était au courant, puis il y avait quelques milliers de personnes.
Oui, bon. Enfin, tous les journalistes étaient parfaitement.
Mais les journalistes, quand on met pas la population.
Le numéro du crapouillot qui a apporté cette information était vendu à 180 000 exemplaires.
Oui, oui. Bon, ben, il y avait ces gens-là, mais en plus, ils disaient un peu, etc. Bon.
Et
ce qui est formidable, quand
même. À côté du nombre d'auditeurs de la télévision nationale.
Mais quand vous prenez, c'est vrai que quand même, j'ai pas fait le pointage complet, mais vous vous retrouvez avec Jospin. Bon, ancien militant trotskiste. Vous avez Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'État aux anciens combattants, ancien trotskiste. Vous avez Jean Glavany, ancien membre de la Ligue communiste. Alors maintenant, on dit il a flirté. Il a été membre militant, de 70 à 73. Oui, puis surtout membre. Bon, c'est-à-dire que c'est
compliqué. Il faut mesurer ce que représente dans un pays comme la France le fait que ministre de l'agriculture, c'est-à-dire l'homme qui est en charge du département qui devrait être le plus traditionnel par les hommes en tout cas la politique française, c'est un militant de l'extrême gauche.
Mais vous avez le,
mais la même,
c'est l'exemple avec Lipietz qui va être candidat au présidentiel, voilà, pour les Verts. De même que Voynet était sympathisant, je dis pas membre, mais sympathisante de la Ligue quand elle était à Besançon et qu'elle était dans les mouvements féministes, satellites de la Ligue communiste. Vous avez Alain Lipietz qui a quand même été un leader de mouvement maoïste dont il a dirigé plusieurs revues. Bon, je veux dire, c'était pas un petit militant de base. Et en fait, ils ont pratiquement pris le contrôle des Verts maintenant. Puisque toute la fraction, on pourrait dire, plus écologique, quoi, plus protection de la nature, se retrouve, il n'y a plus de porte-parole, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de candidat à l'élection.
Trop écologiste.
Voilà. Bon, c'est l'exemple type de ma mère. Ma mère qu'on peut pas traiter d'homme de droite. Bon, et ben ma mère qui devait être désignée s'est retrouvée éliminée par les manipulations des anciens, de la grande fraternité des anciens militants de l'extrême gauche.
Ouais. C'est quand même extraordinaire de voir à quel degré de l'infiltration, c'est ce que je disais, de sape on en est arrivé.
Mais on a l'exemple aussi en Allemagne, hein. Bon, où là c'est encore mieux parce que c'est des anciens membres de la RAF, ce qui est quand même extraordinaire.
Et ils ne sont pas tous passés au NPD comme Horst Mahler.
Je pense que c'est contre cela, l'une des armes nécessaires, c'est d'être un quotidien.
Et que
si on peut aider notre quotidien plus qu'on ne le fait quelquefois, ça
je crois que vraiment, utile. On va peut-être trouver incongru, on va peut-être croire que c'est une façon de faire de la RTAP, mais c'est pas ça du tout. Je crois que vraiment dans l'espèce de chape de mensonge, d'imposture, d'abrutissement, de matraquage, de politiquement correct dans laquelle, enfin, cette chape sous laquelle on vit, c'est absolument indispensable, c'est humainement indispensable d'avoir des contrepoisons, d'avoir des injections d'oxygène. Et il n'y a que notre presse qui peut apporter ça. Il est évident que toute la presse, que ce soit toute la presse quotidienne, à l'exception de présent, est une presse asservie, occupée. Il faut voir les papiers du Figaro sur le trotskisme, c'est ahurissant. Enfin, le Figaro est un journal totalement noyauté par des journalistes trotskistes. C'est dément quand même.
Il fait une exception ce matin, dans le Figaro ce matin. Il y a un article de quelqu'un qui a été le secrétaire de Souvarine, qui est... plus convenable, mais c'est ça, c'est dans les débats et opinions.
C'est ça, voilà.
C'est-à-dire qu'on passe, quand le Figaro et trop de nos amis sont à l'affût en matière de presse, cette petite lueur que leur donne la page de courrier de lecteur, ou de débats et opinions, où il y a un cheval et une alouette.
Oui, c'est ça, c'est exactement le système du cheval.
Alors, il y a quelquefois dans le Figaro, effectivement, on arrive à faire passer une chose.
Oui, mais c'est la différence.
Mais ça ne fait qu'authentifier l'énorme poids de tout ce journal.
Pour dire à quel point cette page du courrier est devenue un phénomène social. Vraiment un phénomène social. Quand on la lit tous les jours, on voit que très régulièrement les mêmes signatures reviennent. Notamment quand il s'agit de messages envoyés par Internet. Eh bien, c'est au point que les correspondants par Internet du Figaro ont créé un forum de discussion sur Internet où entre eux,
oui,
sur le seul critère qu'ils ont eu des lettres publiées dans le Figaro, ils échangent des commentaires sur l'actualité. Si bien que on est dans une situation où, étant donné que l'ensemble de la presse est pourrie, oui, les gens se font en quelque sorte leur mini créneau médiatique, leur mini espace de discussion où ils bavardent entre eux. Et alors c'est évidemment le meilleur moyen d'ailleurs de pas rencontrer trop de contradictions, parce que là, quand on est tous d'accord, on risque pas de se fâcher beaucoup. Mais c'est quand même le signe qu'il y a un manque réel d'informations vraies, d'informations libres. Et ce manque, il vient naturellement du fonctionnement général des médias en France, mais il vient aussi de la paresse intellectuelle du lectorat, qui considère que quand on veut lire un journal de droite, on lit le Figaro.
On disait autrefois, le pape souffre tout, pour dire qu'on pouvait écrire n'importe quoi, mais il y a n'importe quoi. Quand on voit apparaître dans le monde le garçon qui a été viré là du 20h de...
Cyrillon.
Oui, Cyrillon, qui écrit dans le monde. Là, je faisais un journal sans tabou, indépendant. Enfin, voyons. Mais le monde publie ça, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Il y a tout un public qui dit, ouais, oui, faisait un journal sans tabou. Oui, oui.
Oui, merci.
c'est toute la différence.
Enfin, écoutez, c'est des fascistes. Est-ce qu'il vaut mieux un fasciste honnête ou un trotskiste crapuleux?
Enfin, moi,
ce qui est énorme, c'est quand Allègre, je l'ai entendu sur Europe 1 et sur France Inter ce matin, dit un ministre ne peut pas vivre avec 40 000 francs et le premier ministre ne peut pas vivre avec 50 000 francs. Mais enfin, non, que je sache, le premier ministre ne paie pas la brodeuse de Matignon et les canapés de chez le nôtre.
Marie-Camille, je voudrais quand même vous faire observer. C'est pas faux ce qu'il dit. Moi, c'est vrai, parce que comment, je prends un exemple au hasard, Raymond Barre, qui était Premier ministre, combien de temps il a été, mon cher Emmanuel, combien
de
temps
de il 76 a été 76 à 81.
Oui, plusieurs années.
5 ans. 5 ans Premier ministre.
Il est parti avec 17 millions quand même en 81.
Voilà.
Il a pris, il y avait 17 millions qui restaient. Oui.
Mais comment il a fait construire cette villa somptueuse? Moi, je suis admiratif.
Oui.
Il a fait construire une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat,
oui.
Sous un nom d'emprunt, avec un ascenseur. Pas la villa, pas le nom d'emprunt. C'est comme Madame Chirac, vous comprenez, c'est des gens, au lieu de nous donner des avis politiques, il ferait mieux de nous donner des conseils pratiques.
Immobiliers.
Comment ils font? Moi, je voudrais que Madame Chirac explique à ma femme, gentiment, allô, Daniel, bonjour, j'ai entendu votre mari sur Courtoisie, je vais vous donner mon truc pour partir avec un revenu mensuel de 100 000 francs, comme ça nous on fera à peu près la péréquation, on divisera des dépenses par 10, avec un revenu mensuel de 100 000 francs, je peux payer des vacances à 25 000 francs par jour,
oui.
Simplement l'hôtel à l'île Maurice. Alors, vous, Daniel, avec 10 000 francs par mois, et encore, vous devez pouvoir payer des vacances à 2 500 francs par jour. Hein, c'est ça?
Et voilà. Bon. Et oui.
Au lieu d'avoir une limousine, vous aurez un scooter.
J'aurai un scooter, mais je m'en contenterai. Au lieu d'aller bouffer au restaurant, j'irai bouffer au snack. Mais je serais content d'aller voir l'île Maurice aussi après tout. Enfin, encore que je préfère rester en France.
Enfin, je crois qu'ils vont aller au fort de Brégance.
Même s'il pleut. L'avantage, c'est qu'il suffira de tourner un tour de clé, comme ça, ils seront
en ils sont très mal partis.
Et je voudrais qu'ils m'expliquent comment ils construisent sa maison.
Avec Brégançon, vous comprenez qu'ils sont très mal partis. Ils vont pas, s'ils ne vont pas à Brégançon, on dira encore avec des billets, et s'ils vont à Brégançon, ils vont à Brégançon, hein, voilà.
À mon avis, ils iront peu sur la plage et il n'y aura pas de reportage dans Paris Match. Voilà.
Ah bon? Avec ou sans chaussettes noires. Voilà.
Non, mais ce que je pense, c'est que bon,
c'est dommage, ça va nous priver du spectacle intéressant du président de la République en short de nylon avec des chaussettes sous les sandales
et sous les souliers.
Oui, vous disiez.
Non, mais s'il y a Chirac est mal parti, mais il y a surtout cet après-midi, et bon, ils ont commencé, ils ont déjà fait 5 auditions, quoi.
Ouais.
Donc sa propre fille.
Alors,
donc,
moi j'ai pas de.
C'est très difficile de réussir à accorder des déclarations. Avec un juge qui doit quand même être un peu hargneux.
Mais je pense qu'il y a dû avoir quelques réunions préparatoires entre Ulrich, Claude, Bernadette, à qui on a dit vous direz ça et vous demandera ça et tout. Ça veut dire que je suis encore plus bête que je pensais. Mais je voudrais vous poser une question. Moi j'ai pas d'opinion. À votre avis, est-ce que l'attitude des magistrats instructeur dans cette affaire et des procureurs, enfin du procureur qui dit qu'on peut entendre le président de la République en témoin assisté, est-ce qu'à votre avis c'est une attitude qui est dictée par une réelle opinion sur le fonctionnement de la justice ou est-ce que c'est une position politicienne? Est-ce que vous croyez que les juges sont réellement préoccupés dans cette affaire du respect du droit ou qu'ils se livrent à des actions?
D'abord, le droit, vous savez, on peut souvent, on peut argumenter. On raconte que, pour de cassation, par exemple, il arrive que les magistrats fassent rédiger d'avance le rejet du pourvoi, les raisons du rejet du pourvoi et les raisons de l'accepter. Et puis on verra lequel des deux on prend lorsque l'on aura décidé qu'il fallait prendre l'un.
Lorsqu'on aura reçu les ordres.
Dans cette histoire-là, les deux magistrats, il me semble que, je ne sais pas s'ils s'entendent là-dessus, mais ils se sont entendus pour relancer l'affaire. Parce que l'un dit oui, l'autre dit non. Ah, ça fait un débat. Et alors, ça agit.
Oui,
et l'important étant qu'on reparle de l'affaire, pour ceux qui veulent l'utiliser contre Chirac, bien entendu. L'important étant qu'on reparle de l'affaire, qu'elle soit présente à l'esprit, qu'elle soit obsessionnelle. J'aimerais savoir si, ça c'est une mauvaise pensée, va me dire mon directeur de conscience, Emmanuel Ratteau, mais j'aimerais savoir ce que Giscard pense et fait dans cette affaire, en se souvenant de ce qu'il peut supposer ou savoir que Chirac avait fait
au moment des diamants.
Oui.
Ah, oh ben je crois pas qu'il soit d'esprit revanchard, Chirac. Giscard. Oh. À mon avis, l'homme, mais non, mais vous lui prêtez des sentiments, franchement.
Non, mais je me demande, simplement.
Ah bon, vous demandez. Non, mais
Marie-Camille, il n'y a rien à voir. Pas la question.
J'ai évoqué tout à l'heure la personnalité de Jocelyn Drouhan, et je voudrais y revenir parce que je voudrais vous faire pas à vous personnellement, mais à présent, un petit reproche à propos de mauvais esprit. J'ai vu que vous aviez consacré un article pour reprocher à vous étonner que la région Bretagne ait accepté de financer la publication d'un dessin animé.
Oui.
Et dessin animé qui s'appelle Trou du cul.
Oui.
Oui, c'est pas mal.
Qui est financé par la région Bretagne, dont Jocelyn Drouhan est président. Et moi, je trouve tout à fait normal. Je vous le dis. Bon, c'est peut-être pas légal absolument. Je trouve tout à fait normal que dans la tradition du grand mécénat, l'homme qui est en quelque sorte le duc de Bretagne fasse financer un dessin animé, c'est-à-dire une œuvre médiatique qui est à l'évidence à sa gloire. Donc, je ne vois pas en quoi ça a quelque chose de choquant.
Tout à l'heure, Madame Gallic cherchait un nom, le voici, c'est Monsieur Neil Kinnock,
Neil Kinnock.
Leader des partis
travaillistes. Bravo, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur.
C'est un auditeur.
Merci.
Et puis, une question à Monsieur Ratier.